Bonsoir, vous me pardonnerez ce soir de ne pas être une dame. Cette déclaration à la une des informés de France Info est signée Richard Ferrand, désigné candidat des marcheurs à la présidence de l'Assemblée nationale. Il y aurait comme un petit parfum d'ancien monde politique dans l'air. Pendant ce temps, Roxana Maracineanu sauve les 1600 postes du ministère des Sports promis à la casse. Mais pour combien de temps? L'Europe, face à la poussée des populismes, la Suède, jadis démocratie modèle, eh bien n'échappe plus à la vague nationaliste avec une progression hier de son extrême droite aux législatives. Il faut lutter contre l'islamisme pour défendre les musulmans. C'est la position de l'essayiste Hakim El-Karoui qui propose une série de solutions à travers son rapport pour l'Institut Montaigne intitulé « La fabrique de l'islamisme ». Elles envahissent notre vie numérique et pas que. Les fake news, les infos intox, le fact-checking, que d'anglicisme, ne suffira pas à gagner la guerre contre la désinformation. Constat assez pessimiste, il faut le dire, d'une enquête internationale d'Ipsos. On en parle avec nos invités. Bonsoir Gaspard Ganzer.
Bonsoir.
Co-fondateur de 2017, c'est le cabinet de conseil en stratégie et communication. Avec nous, Chloé Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de projets internationaux chez Ipsos. Vous nous parlerez de cette enquête, cette tribune que vous avez publiée avec nous. Raphaël Steinville, bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Rédacteur en chef politique de Valeurs Actuelles, partenaire des informés. Et notre autre partenaire, notre habitué Stéphane Vernier. Bonsoir Stéphane, bienvenue.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Mais tout d'abord, y a-t-il une malédiction Hulot? À peine sorti du gouvernement, l'ancien ministre de la Transition écologique fait déjà l'objet d'une polémique. Et oui, à propos d'un livre intitulé « Ne plus me mentir » aux éditions de l'Aube, qui est l'addition de deux interviews accordées à l'Hebdo le 1 et à la matinale de France Inter, celle où il annonce sa démission. Vous allez entendre Nicolas Hulot qui dénonce sur France Info une tentative de récupération et la réponse d'Éric Fotorino, le directeur du 1, qui lui répond donc dans la foulée.
Je pense que ça aurait été particulièrement indécent de sortir un ouvrage 15 jours après ma démission. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit, donc je veux simplement dire en toute sérénité, je ne suis ni de près ni de loin associé au moindre ouvrage ou à la moindre initiative éditoriale.
Notre démarche, il la connaissait. À la minute où il est sorti des studios de France Inter, moi j'ai demandé au cabinet Nicolas Hulot de pouvoir republier à la fois l'entretien qu'il nous avait donné au 1 fin juin. Et j'ai demandé à France Inter si je pouvais retranscrire la totalité de cet entretien, ce qui m'a été accordé. Évidemment que je n'ai rien fait en dehors de Nicolas Hulot, surtout de son service de communication.
Stéphane Vernet, une polémique déjà, il est à peine parti, Nicolas Hulot. Il y a un sujet autour de l'ancien ministre, il fait fantasmer les médias, les éditeurs.
Bon, alors il y a deux choses. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour des livres qui concernent Nicolas Hulot. Parce que je vous rappelle que le jour même où il a démissionné, Jean-Luc Benhamias, le député européen, ancien secrétaire national des Verts, sortait un livre des éditions
d'Archipel. Qui était prévu.
Voilà, qui s'appelait Les paradoxes de Monsieur Hulot. Et dans la dépêche, le jour de la démission de Nicolas Hulot, il donnait une interview pour faire la promo de son livre, dans lequel il disait que Nicolas Hulot ne démissionnerait pas. Donc bon, voilà. Ce préambule étant fait, ouais. Moi je comprends la colère de Nicolas Hulot parce que le fait de reprendre deux interviews, dont une qui a été publiée au mois de juin, et intitulé le livre "Ne plus me mentir, ne pas me mentir", vous comprendrez bien que ce que Nicolas Hulot a pu déclarer au mois de juin doit être très différent de ce qui, enfin, est très différent, et foncièrement très différent de ce qu'il a déclaré le jour de sa démission. Et il a évolué entre les deux positions.
Oui,
donc moi, je comprends que les grandes vacances de Monsieur Hulot soient un peu perturbées par cette sortie et que ça l'agace, quoi.
Raphaël Steinville, vous diriez quoi? Que c'est un coup de librairie? Il a raison, l'ancien ministre, d'être agacé par, il fait l'objet, au fond, de bouquins qui lui échappent.
Bah, je comprends son agacement et en même temps, la sortie de ce livre annoncé pour la fin de la semaine participe, à mon sens, d'une sorte de panthéonisation de son vivant de Nicolas Hulot. C'est comme si finalement il laissait un testament, un héritage, et qu'il faudrait maintenant ne plus regarder ce qui a été fait pendant toute la durée de l'occupation de son poste de ministre.
Vous dites qu'il est panthéonisé vivant, en fait.
Oui, ouais. Mais c'est quand même fou, c'est-à-dire qu'on lui demande même plus son avis. C'est ses œuvres, c'est ce qu'il a légué à la postérité. Moi, moi je suis un peu étonné du procédé et surtout moi ça j'ai l'impression que ça interdit de penser véritablement le bilan de Nicolas Hulot. On est parti finalement avec les larmes de Nicolas Hulot. Il a lui-même finalement contribué à interdire presque de se pencher sur son bilan parce qu'on était dans le sentimentalisme.
Chloé Morin, chaque ministre, c'était le cas chez nous avec Stéphane Travers le matin, a droit à sa question Hulot. Vous pensez que cela occulte un petit peu le vrai sujet au fond derrière celui de la lutte pour la planète?
En tout cas, ça complique un peu la tâche, sans doute, pour son successeur, puisque Hulot, le ministre le plus populaire du gouvernement, part en disant, finalement, je n'ai pas su convaincre la société, je n'avais personne avec moi, et donc je n'ai pas réussi à faire bouger les choses. Donc, pour tous les ministres moins populaires que lui, ça annonce
des jours difficiles.
Cela dit, la marche pour le climat qui a eu lieu ce week-end montre que peut-être que c'est l'échec de Hulot lui-même, puisque la société sait se mobiliser aussi. Donc peut-être que c'est lui qui n'a pas réussi à faire le pont entre la société civile et le gouvernement et à se montrer assez persuasif.
Alors, Gaspard Ganza, il aurait intérêt à communiquer l'ancien ministre pour essayer peut-être de gérer son après-démission.
Je pense que la meilleure façon de communiquer pour lui, c'est certainement d'observer une période, un délai de viduité, de rester silencieux quelques temps et de reprendre la parole.
D'abstinence
médiatique, oui. Il a certainement besoin de se reposer après cette période qui a dû être quand même éprouvante pour lui, parce que je pense que ça a été difficile de quitter le gouvernement, et on attend sa parole sur le fond, parce qu'il va certainement regarder avec beaucoup de lucidité ce qui a été conduit au niveau du gouvernement depuis un an, verra aussi les échecs, les limites de la politique et des conduites, et puis lui-même. C'est comme une voix qui compte pour l'environnement, et on a besoin de voix comme celle de Nicolas Hulot pour faire avancer la cause du climat. Comme on l'a vu, Chloé Morin le disait tout à l'heure, ce week-end pour la marche pour le climat à Paris et dans d'autres villes d'Europe.
Et la mobilisation également contre une rocade en banlieue de Strasbourg, également.
Oui, bien sûr. Ouais. Et je pense que donc sa voix est vraiment importante, parce que je crois que l'enjeu écologique et environnemental est quand même un des enjeux clés de ce quinquennat, et on peut pas dire que ça soit le mieux traité pour l'instant.
20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Alexandre Benalla sera auditionné par le Sénat. Information France Info, convoqué le 19 septembre. L'ancien collaborateur de l'Élysée mis en examen pour violence en réunion lors des manifestations du 1er mai va donc s'expliquer publiquement et peut-être lever les zones d'ombre dans cette affaire. Le trafic aérien a repris progressivement à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry après 4 heures d'interruption à cause de cette intrusion spectaculaire sur les pistes. Une voiture volée, pris en chasse par la police. Le conducteur a été placé en garde à vue. Il souffre de fragilité psychologique selon les premiers éléments de l'enquête. Richard Ferrand, bientôt le quatrième homme le plus important de l'État, président de l'Assemblée nationale, s'est presque fait désigner haut la main par ses pairs dès le premier tour. Il est le candidat de la majorité. L'élection pour le perchoir, ce sera mercredi. À l'Assemblée, il ne devrait pas y avoir de surprise. Un an après le passage dévastateur d'Irma aux Antilles, voici l'ouragan Isaac. Il est attendu en milieu de semaine entre Sainte-Lucie et les îles du Nord, Saint-Barthes et Saint-Martin. L'alerte jaune pour cyclone est déclenchée. Et puis aux États-Unis, on se prépare à l'arrivée d'un ouragan extrêmement dangereux, l'ouragan Florence. Les premières évacuations ont débuté sur la côte Est. Il gagne en intensité à l'approche du continent, placé en catégorie 4 sur 5 avec des vents à 195 km/h.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Mélodie Pépin l'évoquait à l'instant, 64% des suffrages, 187 voix, soyons précis, contre 85, c'est pas mal, à Barbara Pompili, 15 à Sandra Motin, 4 à Philippe Folliot, et oui, Richard Ferrand a été confortablement élu, il faut le reconnaître, candidat officiel de La République En Marche à la présidence de l'Assemblée nationale, autant dire qu'il sera mercredi le prochain locataire du perchoir. Vous me pardonnerez de ne pas être une dame, a donc lancé le patron des marcheurs, dont voici les premiers mots devant ses troupes.
C'est donc un message de fierté démocratique que notre groupe, collectivement, a adressé à celles et ceux qui nous regardent. À titre personnel, évidemment, j'ai remercié mes collègues de ce vote qui atteint 65%, vote de confiance, vote au fond, d'adhésion aux propositions que j'ai pu faire. Donc, oui, je m'en réjouis.
Gaspard Ganzer, vous sentez un souffle nouveau sur La République En Marche?
Pardon, merci pour ce trait de légère ironie. C'est le choix de la sécurité, on va dire. Emmanuel Macron et son entourage décident de s'appuyer sur les fidèles de la première heure. Richard Ferrand était un des premiers députés socialistes à rejoindre La République En Marche sous le quinquennat de François Hollande. Donc il avait à ce moment-là pris un risque. Il en est remercié aujourd'hui. On voit qu'Emmanuel Macron remercie ceux qui lui ont été fidèles depuis le départ. On est loin de la grande disruption, de la révolution démocratique. Après, Richard Ferrand, je l'espère, sera un très bon président de l'Assemblée nationale. En tout cas, on lui souhaite de réussir. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu une grande mutation de l'Assemblée nationale. Il y a eu un changement de son casting, mais il n'y a pas eu de grande réforme de l'Assemblée nationale comme il y avait pu en avoir par le passé. On l'attend pour les années qui viennent.
Vous voulez dire que c'est une institution qui n'a pas vraiment évolué depuis la nouvelle présidence?
On attend le changement. Le changement, il a d'abord été dans le casting, puisqu'il y a eu des nouveaux députés qui ont été élus, et ça, c'est très bien. En revanche, dans le fonctionnement de l'Assemblée, on n'a pas vu grand-chose de nouveau pour l'instant. Oui.
Chloé Morin, ce n'est pas une dame, donc Richard Ferrand. Il a fait un petit peu d'humour au passage. Vous le regrettez, vous, qu'il n'y ait pas une femme au perchoir? Ou ça n'a pas d'importance?
C'est sûr que ça aurait été un symbole important et en accord avec effectivement l'identité politique de départ d'Emmanuel Macron, qui était d'ouvrir la politique à davantage de personnes de la société civile, davantage rééquilibrer en matière de parité. Bon, ça n'est pas le cas, mais il me semble que la période est plutôt, comment dire, mouvementée pour l'exécutif. Et donc, on peut comprendre que à un poste aussi important, ils aient besoin de mettre des personnes de confiance. C'est évident. Le budget qui arrive est un budget qui sera sans doute voté largement, mais qui est plus compliqué que le premier budget, à mon avis.
Ouais.
Donc, et la réforme des institutions, de la même manière, doit être encore conduite. Donc,
il faut sécuriser la chose. Raphaël Steinville, vous partagez ce point de vue? Au fond, le président de la République a joué la sécurité, non?
Oui, j'ai l'impression que, à travers cette désignation de Richard Ferrand, cela met en exergue finalement les fragilités du moment d'Emmanuel Macron, du macronisme, qui d'une certaine manière rentre dans le dur. Et plutôt que de chercher peut-être de nouvelles voies plus conformes à l'aspiration au changement, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron se comporte un petit peu comme un chef de bande et il s'appuie sur ses
chef de bande, vous
dites. Ouais, il y a un peu de ça sur ces vieux grognards qui ont toujours fait preuve de fidélité et qui se sont montrés assez costauds pendant la tempête, et notamment pendant l'affaire Benalla. J'imagine qu'on y reviendra peut-être. Il se trouve que Richard Ferrand a été l'un des plus solides, il s'est pas dérobé. Quand à l'inverse, justement, et ça a été beaucoup reproché par l'Élysée, François de Rugy, en acceptant cette commission d'enquête, avait contribué un peu à fragiliser la séquence de l'été du président.
Stéphane Vernet, c'est le grognard récompensé, après tout, pourquoi pas?
Alors, non, il y a deux choses. Il y a la confiance d'Emmanuel Macron dans Richard Ferrand. Ça, je pense qu'elle est réelle. Ferrand fait partie des tout premiers marcheurs. C'est le tout premier cercle. Il fait partie des très rares personnes qui soient capables de parler ouvertement au président de la République, y compris sur des choses
sans
sur lesquelles ils sont pas d'accord.
Sans interface, sans filtre.
Il y a ce côté confiance qui est très fort. Moi, je suis pas d'accord avec l'idée de récompense, de donner au grognard ou de remerciement. Je pense qu'en fait, Emmanuel Macron a besoin de quelqu'un de très solide au poste de président de l'Assemblée nationale, et c'est pour ça qu'il a choisi Richard Ferrand, pas forcément pour le remercier ou pour lui faire plaisir. Et oui, comme je viens de le dire, c'est un grognard, mais la semaine dernière, à cette même antenne, on évoquait le fait que Macron n'avait pas de porte-flingue dans son entourage.
Oui, c'est ce qu'on disait ici.
Et ben, Richard Ferrand, il a l'étoffe du porte-flingue, et ça fait partie des gens un peu costauds qui sont capables de monter au créneau et qui lui manquent.
Alors oui,
il y a un paradoxe, c'est que, enfin, dans le fonctionnement des institutions, pour le président de la République, vaut mieux compter sur un bon président de groupe que sur un bon président de l'Assemblée nationale. Ce que je ne comprends pas, c'est si Richard Ferrand est si important dans le dispositif macronien, pourquoi le sortir de la présidence du groupe, qui est vraiment la fonction stratégique,
hein, du président. Vous pensez qu'il était plus utile?
S'il est vraiment utile, il est plus utile. Enfin, il vaut mieux avoir un bon président de groupe qu'un bon président de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui tient la majorité, plutôt que quelqu'un qui va être dans une plus de magnanimité, de rassemblement. Il aura certainement moins d'influence, Richard Ferrand, en tant que président de l'Assemblée nationale qu'en tant que président de groupe.
Ce qui est certain, c'est qu'il faut le reconnaître. Richard Ferrand a accepté, ou plutôt a pris la tête du groupe En Marche, contraint et forcé, après avoir dû démissionner du gouvernement. Et donc, c'était le premier poste qu'il pouvait prendre et qui ne soit pas absolument une humiliation pour lui après son départ forcé.
Alors, il y a aussi la part de rêve, hein, celle-là même qui avait, au fond, porté Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Écoutez ce qu'a dit, ce qu'a déclaré sa concurrente Barbara Pompili, la concurrente de Richard Ferrand. La Macronie, ce devait être l'audace. Elle s'exprimait donc avant, nous sommes avant le scrutin.
On a un ADN, nous, à En Marche, qui est justement l'ADN de personnes qui viennent d'horizons très différents, qui ont des idées différentes, des opinions différentes. Et ben là, on a l'occasion de faire un vote et de débattre. Je trouve ça très, très, très bien en démocratie. Et de montrer que la Macronie, c'est ça. C'est l'audace et c'est l'ouverture et c'est surtout aussi porter nos belles idées dans le réel et pas seulement dans les paroles.
Voilà, ça c'était donc avant l'élection hein, de Monsieur Ferrand. Chloé Morin, l'audace, le rêve, tout ça, c'est un petit peu mis de côté? On joue la sécurité.
Il faudra voir qui est porté à la présidence du groupe, puisque je suis d'accord que
c'est
un poste clé et c'est pas le poste le plus facile, c'est surtout ça en fait. C'est un poste dont on a souvent dit que Richard Ferrand n'en voulait pas et qu'il était et qu'il n'avait pas plaisir à l'exercer. Donc après il y a une parité au gouvernement. C'est vrai qu'il y a les
ça
quatre premiers.
Que dites-vous, oui. Gaspard Gander?
Excusez-moi, oui. Chloé, mais je pense que ça serait bien que ça soit une femme à la tête.
Du coup.
Bah, ce serait bien. Bah,
ouais. C'est peut-être l'étape suivante. Stéphane Vernet, la part de rêve, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, peut-être? Est-ce que La République En Marche ne devient pas, finalement, un vrai parti politique?
Alors ça c'est une autre question, mais par rapport à celle de une femme à la tête, oui, de l'Assemblée, enfin de présidente de groupe du à coup, l'Assemblée, ça c'est souhaité par pas mal de marcheurs aujourd'hui, mais ça a été un des points clés de cette élection. Vous avez vu tout le discours en fait de Barbara Pompili, qui a beaucoup pris la parole sur les radios, sur les plateaux de télé,
était
basée là-dessus, sur il est temps, une femme, ce serait bien, ce qui est vrai. Sauf que Barbara Pompili, elle s'est adressée à qui? Elle s'est adressée au grand public, à l'opinion publique, et là-dessus elle a marqué des points. Elle s'est adressée éventuellement aux militants d'En Marche, l'audace, tout ça, etc. Mais en oubliant une chose, c'est que ce sont les députés qui votent. Et les députés, eux, ils ont joué la sécurité, la confiance qu'on vient d'évoquer. Et à peine l'élection terminée ce matin, qu'un nouveau débat s'est ouvert sur qui prendra la suite de Richard Ferrand. Et effectivement, y compris au sein du groupe, il y a plusieurs voix qui s'élèvent en disant ce serait bien qu'il y ait une revanche des femmes, une femme présidente, ce serait pas mal. Il y a 7 groupes politiques à l'Assemblée. Au moment de l'élection de François de Rugy au perchoir, il y avait 0 femme présidente de groupe. Depuis, il y en a une, c'est Valérie Rabault, qui a pris la place d'Olivier Faure, qui est parti prendre la tête du PS, du parti. Mais ça fait 1 sur 7, donc une deuxième serait pas mal. Le problème, c'est que c'est effectivement un poste clé, et donc une femme, super, mais il faut que ce soit une femme à poigne.
En l'occurrence, Barbara Pompili a déjà exercé le job dans la précédente mandature.
20h21 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Une attaque sans précédent, Washington s'en prend à la Cour pénale internationale, jugée inefficace, irresponsable et carrément dangereuse, je cite. Les États-Unis menacent de sanctions les juges et les procureurs de la Cour, chargés de juger les crimes contre l'humanité. À l'origine de cette réaction, une enquête potentielle contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan. Rien de terroriste dans l'attaque au couteau à Paris hier soir. Selon les enquêteurs, un homme qui serait de nationalité afghane est toujours en garde à vue. Il a blessé 7 personnes, dont 4 grièvement. Ce sont des citoyens qui l'ont arrêté en lui jetant des boules de pétanque. Jean-Vincent Placet condamné à 3 mois de prison avec sursis, mais ce ne sera pas inscrit à son casier judiciaire. Condamné pour violence et outrage à agent, il avait été expulsé d'un bar en avril dernier, alcoolisé. En revanche, il a été partiellement relaxé des faits d'injure raciale. Déplacement en immersion pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président a passé 5 heures dans un centre d'ATD Carmonde en Seine-Saint-Denis pour rencontrer des personnes touchées par la grande pauvreté. Pas de médias présents. Un signal positif selon l'ONG avant la présentation du plan pauvreté jeudi. Et en ce moment, le président est avec Bono à l'Elysée. Le chanteur de U2 et cofondateur de l'ONG One est venu discuter du partenariat Europe-Afrique.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Est-ce un rétro-pédalage? Roxana Maracineanu, la toute nouvelle ministre des Sports, avait jugé brutal hein, la publication de la lettre de cadrage fixant un objectif de 1600 suppressions de postes à son ministère. Un passage ce matin dans le bureau du Premier ministre Édouard Philippe, et voici le résultat.
Ce ne seront pas des suppressions d'emplois, il n'y a personne qui va perdre son emploi. Il m'a assuré de sa volonté d'avoir un budget du sport à la hauteur des enjeux.
Raphaël Steinville, selon vous, hein, qu'est-ce qui s'est passé?
Déjà, il faut quand même rappeler que la ministre des Sports hérite d'une lettre de cadrage qui était adressée à Laura Flessel, qu'elle avait reçue en juillet, et qui annonçait...
Elle la découvre le lendemain.
Oui, mais... Et donc, ce qui est amusant, c'est que je sais qu'elle n'a pas été la seule qui a été sollicitée pour ce ministère. Et l'une des personnes qui en tout cas a été approchée, à qui on a même pu mentionner le fait qu'il puisse devenir ministre des Sports, me confiait tout récemment qu'il n'y serait pas allé justement parce qu'il y avait cette demande de Matignon, ouais, de supprimer un certain nombre de postes. Donc aujourd'hui, elle est dans une séquence de communication. Elle s'en sort assez bien. C'est vrai que a priori ces 1600 postes ne seront pas actés en tant que tels. Elle va obtenir peut-être 800 ou 1000 départs. Mais le monde du sport a 4-6 ans des Jeux Olympiques. Honnêtement, c'est absolument désastreux que les champions soient préparés dans ces conditions. Mmh. C'était le directeur technique national qui, dans l'équipe, parlait d'une Saint-Barthélemy du sport.
Oui, et moi, c'est fort aussi, oui.
Mais
oui.
C'est un peu violent, mais effectivement, c'est assez troublant compte tenu des enjeux dans les années immédiates pour la France.
Stéphane Vernet, c'est bien qu'une ministre ainsi, au fond, s'exprime librement. Ça peut peser dans une négociation avec le Premier ministre. Ça existe?
Je ne sais pas si elle s'exprime librement, comme vous dites, ou quelle est sa marge de manœuvre.
Elle est assez directe finalement. Quand
oui, je trouve qu'elle était bonne dans l'exercice, ouais. En fait, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui hérite de ce cadeau, elle se débrouille plutôt pas mal. Après, voilà, moi, je l'ai entendu dire, ce ne sont pas les bons mots qui ont été employés. Il fallait parler de réorganisation, supprime. C'est pas des emplois qui seront supprimés, mais des postes, etc. Bon, il y a quand même un problème sur le fond qui vient d'être évoqué. Effectivement, c'est comment on fait fonctionner les fédérations sportives avec 1600 conseillers techniques sportifs en moins. Ça va être très compliqué. Mais surtout derrière, il y a autre chose, moi, qui me paraît intéressant. C'est que je vous rappelle que ce gouvernement a annoncé la suppression de 120 000 emplois dans la fonction publique à horizon 2022.
50 000 d'État, hein.
Donc oui, mais alors le problème, voilà, c'est que surtout pour l'instant, en fait, on voit pas la mise en œuvre de ce plan, et on ne cesse de nous dire oui, non, mais ça viendra plus tard. Alors est-ce qu'ils vont procéder à toutes ces suppressions d'emplois juste l'année qui précède l'élection à la présidence de la République? Moi, j'ai un doute. Et donc si à chaque fois qu'on annonce qu'effectivement il faut supprimer des emplois et hop, on fait marche arrière en disant non, mais on s'est mal compris, on supprime des postes et pas les emplois, cet objectif-là, il sera jamais
atteint. Gaspard Ganzer, vous avez jadis été le collaborateur de François Hollande. Ces lettres de cadrage, c'est quelque chose de très précis en amont, ou c'est une sorte de jauge et puis après tout, on fait ce qu'on veut avec?
Pas du tout. C'est extrêmement précis, débattu pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois entre Matignon, le ministère du budget, ou le secrétaire d'État au budget, et le ministère concerné. C'est la copie quasi définitive avant.
Donc ça veut dire que les 1600 seront sur la table, effectivement.
C'est clair. Donc peut-être que la nouvelle ministre des Sports a obtenu quelque chose en contrepartie, on peut en douter. Hein. On voit d'ailleurs que moi, je l'ai trouvée très bonne hier. Je l'ai trouvée un peu plus hésitante, là, dans la forme, à la sortie, parlant de différence entre emploi, personne, etc.
Enfin, ce qui jargonnante.
Oui, non, enfin, le langage était déjà devenu très technocratique. Je suis désolé pour elle, mais elle avait déjà perdu la fraîcheur et l'authenticité de la veille. Visiblement, elle s'est fait sévèrement recadrer par le Premier ministre, qui lui a dit, écoute, le budget, on veut bien, mais si tu acceptes ou c'est la porte. Et elle a préféré rester, c'est humain.
Ouais, ouais. Chloé Morin, vous voyez la chose de la même façon. Vous, il y a eu une petite opération de gravure, on va dire, entre-temps, et puis on revient au monde réel.
Oui, et puis faut savoir qu'un ministre qui arrive, et qui arrive en plus un peu comme ça, avec un budget qui a été préparé en amont par une personne, son prédécesseur, c'est jamais évident, et il y a une nécessité d'asseoir sa légitimité vis-à-vis de ses interlocuteurs, qu'ils soient dans le milieu sportif ou que ce soit son ministère, son administration. Et donc, si d'emblée, le signal qui est envoyé, c'est « je n'ai pas de pouvoir » et tout se décide à Matignon ou à l'Élysée, on perd tout de suite toute la crédibilité. Donc, elle a cet enjeu-là. Maintenant, c'est vrai que si dans une semaine, un mois, quelques mois, on se rend compte qu'elle n'a rien obtenu, ça risque d'être très compliqué pour elle. De commencer comme ça sur un pseudo bras de fer avec Matignon, c'est compliqué.
Allez, dans la deuxième partie des informés, nous évoquerons la fabrique de l'islamisme, la poussée populiste en Suède et l'invasion des fake news. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est bien réel. C'est tout de suite après la météo et les infos.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un temps estival, demain le soleil sera au rendez-vous sur une très grande partie du pays le matin. On trouvera malgré tout quelques brouillards vers les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. De la Vendée vers la Bretagne et les côtes de la Normandie au Pas-de-Calais, là les nuages bas seront compacts. On aura du brouillard aussi, un peu de vent près de la Manche. Les températures du matin afficheront souvent 9 à 15 degrés, 9 à Reims, 11 degrés à Caen, Nancy, Aurillac, 15 à Paris et Montauban, jusqu'à 16 à 21 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, le soleil aura réussi à percer la couche nuageuse partout. Il restera juste quelques nuages inoffensifs près de la Manche. La chaleur s'installera avec 21 degrés à Brest, 24 à Amiens, 28 à Nantes, 29 degrés à Paris, Besançon, Montpellier, Nice. Ça montera jusqu'à 31 degrés à Tours, à Nevers, à Bordeaux et à Tarbes, 32 à Clermont-Ferrand et Valence et jusqu'à 33 à Toulouse.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Vous écoutez France Info, il est presque 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Richard Ferrand passe de devenir le prochain président de l'Assemblée après avoir décroché dès le premier tour l'investiture des députés de La République En Marche avec une confortable avance, 64% contre 29% à sa principale adversaire Barbara Pompili. C'était lors du congrès de Tours qui n'aura donc pas fracturé la majorité. Le député du Finistère va succéder à François de Rugy au perchoir, parti au ministère de l'écologie. Voulait-il échapper à la police qui le poursuivait ou avait-il d'autres intentions? Un homme a été arrêté après s'être introduit en voiture sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ce matin. Ses proches évoquent des difficultés psychologiques. Il n'y a pas de blessés, mais le trafic a été interrompu une bonne partie de la journée. Une quarantaine de vols déroutés ou annulés. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Ils étaient 46 victimes et 3 associations cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Les malades de la nouvelle formule du Levothyrox réclament réparation au laboratoire Merck avec la fourniture de la nouvelle formule plus largement et des indemnisations pour préjudice moral et d'anxiété. À Toulouse, le compte-rendu de l'audience de Stéphane Iglesis.
L'avocat des 46 victimes a rappelé leur calvaire de 6 mois sans explication l'an dernier avec la prise du nouveau Levothyrox et demandé au laboratoire Merck de fournir l'ancienne formule. Les victimes réclament aussi 15 000 euros chacune de préjudice moral et d'anxiété. Florent Bensadoun, directeur juridique de Merck.
Cette demande-là, on ne peut pas y souscrire, nous nous y opposons, dans la mesure où pour nous les conditions de mise en jeu de la responsabilité ne sont absolument pas réunies. Et j'ajoute à cela qu'on conteste fermement toute allégation de défaut du médicament, dans la mesure où de nombreux rapports ont été publiés au cours des dernières semaines, confirmant la qualité de la nouvelle formule du Levothyrox.
L'Agence nationale de sécurité du médicament estime à 1,2% seulement le nombre de malades ne supportant pas la nouvelle formule du Levothyrox, soit 39 000 personnes. Sylvie Chéreau du collectif Occitanie des malades du Levothyrox.
Finalement, pour Merck, enfin, le laboratoire et l'ANSM, tout était parfait, ce n'est qu'un problème de communication et que finalement, il va falloir qu'on prouve que nous avons été malades. En tout cas, il va falloir qu'eux me prouvent pourquoi, lorsque j'ai arrêté de prendre cette nouvelle formule-là, tous les symptômes que j'avais se sont arrêtés.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 5 novembre prochain. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Info.
Près de 200 personnes rassemblées aujourd'hui devant l'hôpital de Nancy pour venir dénoncer la dégradation des conditions de travail en blouse blanche ou en civil. Ces agents hospitaliers venaient aussi exprimer leurs inquiétudes quant à l'avenir du CHU de Nancy qui accuse près de 300 millions d'euros de déficit. Les bombardements font toujours rage à Idlib. Les raids entamés la semaine dernière par l'armée syrienne et ses alliés russes, notamment dans la province rebelle, auraient provoqué le déplacement de 30 000 personnes d'après l'ONU, qui en parle déjà comme de la pire catastrophe humanitaire. Et puis Emmanuel Macron reçoit Bono ce soir à l'Elysée. Le chef de l'État et le chanteur de U2, également cofondateur de l'ONG One, vont discuter de l'aide au développement et du partenariat Europe-Afrique. Il est 20h33, les informés, suite et fin.
Les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Gaspard Ganzer, cofondateur de 2017, le cabinet de conseil en stratégie et communication, avec Chloé Morin, la directrice de projets internationaux chez Ipsos, Raphaël Steinville, rédacteur en chef politique de Valeurs Actuelles, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France. Alors, Hakim El-Karoui veut défendre les musulmans en luttant contre l'islamisme. L'essayiste vient de publier cette intéressant rapport, assez costaud, hein, 600 pages, pour l'Institut Montaigne. Nous le détaillons d'ailleurs sur notre site franceinfo.fr, intitulé « La fabrique de l'islamisme ». Je vous propose tout d'abord d'écouter les quelques explications données ce matin sur France Info par Hakim El-Karoui.
Je suis prêt à discuter.
Je crois que nous allons écouter le bon extrait Hakim El-Karoui ce matin sur France Info. Je crois qu'on ne l'a pas. Et bien, écoutez, je vais faire le job à sa place. Donc, notre essayiste propose une série de solutions pour peut-être en finir avec l'islamisme qui est en train de gagner, dit-il, hein, toute la, au fond, la religion musulmane en France. Est-ce qu'il y a, je me tourne vers vous, Raphaël Steinville, à ce sujet, une opinion silencieuse, comme le dit dans son rapport Hakim El-Karoui, au sein des musulmans de France, une sorte d'opinion qui ne s'exprimerait pas à ce sujet?
Ce qui est compliqué, c'est que cette communauté musulmane dont il parle aujourd'hui, elle n'existe pas. Il y a des communautés musulmanes. Il y a le wahhabisme. Il y a déjà deux grands mouvements au sein de l'islam entre les sunnites et les chiites. Et donc, c'est déjà très compliqué que de poser de facto sur la table le principe d'une communauté musulmane en France. Et donc, bien évidemment, de bonne foi, un certain nombre de musulmans ne se reconnaissent pas dans ces dérives islamistes. Et en même temps, c'est toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la mainmise par notamment les Frères musulmans et d'autres organisations islamistes sur l'islam de France empêche toute réforme, à mon sens en tout cas aujourd'hui, en tout cas, ou rend difficile la mise en œuvre des principes dictés par El-Karoui.
Alors, si les non-islamistes laissent leur religion aux islamistes, je cite toujours Hakim El-Karoui, ils auront une part de responsabilité dans la dégradation de la situation. C'est ce qu'explique donc l'essayiste Stéphane Vernet. On a la sensation que, quinquennat après quinquennat, au fond, les pouvoirs publics sont quelque peu désarmés face à ce sujet.
C'est une réalité, en fait, et ce discours, on l'entend depuis longtemps, c'est-à-dire de dire que les musulmans modérés devraient s'emparer du problème, régler la solution eux-mêmes, ça c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps. Il y a un fond de vérité, et ce qu'il faut rappeler avec force, c'est que l'écrasante majorité des victimes de Daesh, parmi les gens qui ont été opprimés, massacrés, ce sont d'abord des musulmans. C'est-à-dire que nous, on voit les choses à travers le prisme des attentats, mais ce qui se passe dans le reste du monde, ce sont des musulmans qui sont d'abord opprimés au nom de l'islam par d'autres musulmans qui pratiquent un islam dévoyé. Alors, le problème, c'est où est-ce qu'on met le curseur, comment est-ce qu'on décrète ou définit quel est le bon islam? C'est toute la question, c'est ce que vient d'évoquer Raphaël Steinville. Dans les mosquées, les communautés, il y a des pratiques différentes, il y a des intérêts différents, il y a des façons d'aborder les choses différentes. Et qui va être le bon arbitre et mettre le curseur ou remettre, alors non pas l'église au milieu du village, mais la mosquée au milieu du village. D'où l'intérêt peut-être effectivement dans le rapport de préconiser aussi la création d'une association musulmane pour l'islam de France qui serait chargée d'organiser, de financer.
Parce qu'il existe des solutions concrètes en réalité.
Et ça fait partie des choses qui sont prônées aussi par le gouvernement, qui sont souhaitées. Et ce gouvernement, il travaille à nouveau, mais c'est un, quelque part, c'est un serpent de mer. C'est un débat où ce sont des sujets qu'on évoque depuis des années, allez, sans arriver à une formule qui marche.
Avant de poursuivre autour de cette table, je vous propose enfin d'écouter un extrait de Hakim El-Karoui ce matin sur France Info.
Le problème, c'est que les musulmans aujourd'hui, qui sont la première cible des islamistes, ne sont pas suffisamment conscients de ce qui se passe. Dans ce rapport de l'Institut Montaigne, ce que nous avons fait, c'est déconstruire toute la machine. La machine idéologique, c'est quoi l'islamisme ? La machine de production en Arabie, en Égypte, en Turquie. La machine de diffusion pour arriver jusqu'à aujourd'hui en Europe. Et on a fait une photographie via les réseaux sociaux de la situation en Europe.
Alors c'est passionnant ce que l'essayiste explique, c'est assez courageux d'ailleurs. Clément Morin, il y a plusieurs solutions mises sur la table. Il nous explique qu'on peut créer donc une institution chargée d'organiser, de financer le culte musulman, peut-être disposer d'un discours religieux musulman français, alternatif à ce qui est donné sur les réseaux sociaux et ailleurs. Clément Morin, vous aussi, vous pensez qu'il y a des solutions possibles, qu'il faudrait peut-être briser certains tabous pour mettre ces sujets-là sur la table?
Ça dépend de quel tabou vous parlez, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tout ce que j'ai entendu jusque-là, c'est des choses qu'on a entendues
depuis toujours.
Je veux dire, en 2015, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, François Hollande ont lancé déjà des initiatives. La question du contre-discours sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que le service d'information du gouvernement faisait déjà à l'époque. Alors certes, on se heurte toujours au fait que ça n'est pas efficace, mais la réflexion sur l'organisation de l'islam et sur comment créer, alors ce que certains appellent un islam de France, c'est quelque chose qui remonte
au moins à Nicolas Sarkozy.
Gaspard
Ganzer, du quinquennat précédent, vous avez le souvenir également que ce sujet a été largement abordé de façon très ouverte.
En tout cas, la prise de conscience, elle existait grâce à Bernard Cazeneuve, à Manuel Valls et à François Hollande. Beaucoup de travaux ont été engagés pour faire respecter la laïcité partout dans le pays, et la laïcité, c'est pas interdire le culte, au contraire, c'est permettre à chacun d'exercer son culte librement, c'est-à-dire sans le faire contre les autres. Parce que, comme cela a été dit, et je voulais redire, les premières victimes de l'islamisme radical, du terrorisme islamiste, ce sont les musulmans eux-mêmes, à l'étranger, mais aussi en France. Donc, il faut rechercher cet esprit de concorde. Les idées qui ont été avancées lors du dernier quinquennat, pour la majorité d'entre elles, étaient bonnes. Elles n'ont pas pu être mises en œuvre à ce stade. Je pense que c'est un sujet sur lequel on a besoin de continuité dans l'esprit de laïcité.
Allez, 20h40 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Il y a 2 ans, 5 femmes djihadistes laissaient des bonbonnes de gaz dans une voiture près de Notre-Dame de Paris. Un attentat raté. Les juges antiterroristes ont décidé de les renvoyer en assises. Une première depuis la vague d'attentats en France. L'affaire Benalla, reprise des auditions au Sénat dès mercredi. Et l'on apprend aujourd'hui qu'Alexandre Benalla sera entendu. Information France Info. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron sera sans doute entendu le 19 septembre. Pour José Bové, c'est une résistance légitime. Sur France Info, le député européen ELV soutient les zadistes chassés ce matin de Kolbsheim dans le Bas-Rhin qui protestent contre le projet d'une rocade autoroutière pour désengorger Strasbourg. Un projet complètement dépassé, dit-il. Le milieu sportif en partie satisfait après la réunion entre la ministre des Sports et le Premier ministre. Roxana Maracineanu a assuré que personne ne perdra son emploi, mais que le mode de gestion doit évoluer. 1600 postes sont menacés. Et puis la 5e économie mondiale s'engage à 100% d'électricité propre d'ici 2045. Il s'agit de la Californie, engagement inscrit dans la loi. Ce ne sera pas facile, mais ça doit être fait, a lancé le gouverneur avant de signer le texte.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et voilà la Suède face au syndrome du blocage politique. Droite et gauche ont fait match nul aux législatives hier, 40% pour chacune des coalitions. Les démocrates de Suède, c'est l'appellation du parti eurosceptique et hostile à l'immigration, a progressé de 5 points à 17,6% des voix. L'extrême droite devient donc en Suède faiseuse de roi. Vous allez entendre son leader national conservateur Jimmy Åkesson et ensuite Stefan Löfven, premier ministre social-démocrate sortant.
Je suis prêt à discuter, je suis prêt à négocier et je suis prêt à coopérer avec tous les autres partis. Je suis consterné que ce parti aux racines nazies puisse gagner autant de terrain.
Et voilà donc ce débat qui gagne désormais la Suède. Chloé Morin, elle reste un modèle social-démocrate européen, comme on l'a toujours dit là aussi.
C'est sûr que c'est extrêmement frappant pour nous qui avons une image de la Suède comme un pays extrêmement progressiste. Et donc, quand on voit que même là, les populismes et l'extrême droite s'ancrent et ancrés durablement, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que ça n'est pas un accident, c'est une progression qui remonte à quelques années et qui est constante. Donc, juste pour se rendre compte, en 2010, les deux principaux partis, donc socialistes et social-démocrate, à eux seuls, faisaient 61% des voix. Donc, on voit à quel point l'effondrement de ces deux partis est finalement brutal et à quel point ça peut être perturbant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi et qu'on dit maintenant souvent, c'est ce cas-là nous interroge sur le lien qu'on fait toujours de manière assez automatique entre la crise économique et les conditions économiques et le populisme, puisqu'on voit ici que dans un pays qui va plutôt bien, même s'il y a des inégalités, il y a des zones qui souffrent de moindre développement et de moindre richesse, ça n'est pas uniquement les questions économiques qui expliquent.
Alors, c'est la crise migratoire, la crise identitaire, peut-être qui explique.
Oui, c'est ça. Regardez, le Premier ministre sortant a été attaqué par la droite pour avoir grand ouvert les portes de l'immigration, et il a été attaqué par sa gauche, hein, il vient de là, parce qu'il les a refermés brutalement. Donc le cœur du sujet, c'est l'immigration.
Mais pas seulement en Suède, c'est ça qui est assez frappant. Et moi, je m'étonne, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'on s'alarme de la montée de ces partis, mais il y a une raison quand même au succès aujourd'hui de ces partis dits populistes en Europe, c'est que
vous validez, vous faites l'appellation populiste.
Je me refuse à faire comme ce Premier ministre qui tout de suite agite le spectre du nazisme, parce que ça agit comme une sorte de gaz incapacitant. On peut plus penser dès lors que on agite ces souvenirs du passé. Bien évidemment, dès lors que on disqualifie un adversaire en ces termes, on se refuse à voir les conditions qui ont permis qu'un certain nombre de personnes s'expriment sur ce genre de parti. Et il y a de vraies raisons qui expliquent que en Suède, au Danemark, en Hongrie, en Autriche, en Pologne et en Italie et dernièrement, ces partis-là aujourd'hui sont aux portes du pouvoir ou accèdent au pouvoir.
Gaspard Ganzer, cette montée que décrit Raphaël Steinville des formations, on va dire, nationalistes. C'est dû à la mauvaise gestion par l'Europe de la question migratoire. Est-ce que ça se situe, ça se niche là?
Je pense que l'Europe n'a pas fait que des belles choses au cours des dernières années, mais elle a aussi bon dos. Je pense que la solution ne peut pas être d'accuser l'Union européenne de son incapacité, de son inefficacité, parce qu'on ne fera ce faisant que renforcer les populismes et les nationalismes. Plus on dira que le Parlement européen, la Commission européenne, les institutions européennes sont des incapables, plus on a de chances que les nationalistes ou les populistes l'emportent. Ce qui a été dit est juste. Je pense que ça renvoie à une crise de la démocratie, parce que ces partis grandissent sur le doute identitaire, la crise économique, la fatigue démocratique, et sous fond de baisse de la participation. Donc la réponse, elle doit être dans plus d'efficacité de la démocratie, la résolution des problèmes concrets des gens, et puis aussi une meilleure coopération. Moi, je pense que face à ces problèmes, il ne faut pas moins d'Europe ou plus d'Europe nationale, mais au contraire, plus d'Europe et moins d'égoïsmes nationaux.
Stéphane Vernet, sur ces questions, vous pensez qu'il y a urgence à expliquer les choses, que les populations ont peur? Comment est-ce que vous décryptez, vous, cette poussée nationaliste européenne, tous azimuts, qui touche même la Suède?
Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a pas de corrélation entre la prospérité économique et le vote. Ça, c'est terminé. Je pense aussi que le vote, il est motivé aujourd'hui par la peur, et la peur est toujours Mais oui, et la peur est mauvaise conseillère. Et je pense que, si vous voulez, c'est pas une, c'est plus que, au lieu de parler ou d'évoquer une espèce d'échec, de faillite de la raison, ou de faillite collective de la raison, moi, j'ai plutôt le sentiment que nos concitoyens, au contraire, aujourd'hui perçoivent très clairement les enjeux majeurs auxquels on va être confrontés dans un avenir très proche. On sait que la démographie en Afrique est en train d'exploser, que le nombre d'habitants sur le continent africain va être multiplié par 2 d'ici 2050. On sait que le réchauffement climatique est de nature à incapaciter des zones entières pour les hommes pour pouvoir y vivre. Que derrière, il y a forcément des mouvements migratoires de très grande ampleur qui sont en train de se dessiner. Une partie des conflits auxquels on assiste à travers le monde aujourd'hui sont aussi le fruit ou liés directement à ces problématiques-là. Et moi, je pense que beaucoup de gens ont cette peur-là, ou voient cette chose arriver, en se disant que nos politiques aujourd'hui sont totalement incapables de gérer ce type de problématique. Or, ça n'a rien à voir avec l'Europe, ouais. C'est pas du tout un problème européen, la solution est européenne, mais si l'Europe n'a pas été en capacité de gérer ces enjeux majeurs pour l'avenir, c'est que les États-nations, chacun des États membres qui composent l'Union européenne, ont interdit à l'Europe de s'en emparer. S'il y a bien une compétence aujourd'hui au sein de l'Union européenne que l'Union n'a pas,
c'est ça la zone de blocage selon vous.
Mais oui. La vraie urgence, oui. Si vous voulez, c'est de créer un vrai discours et une vraie réflexion et une vraie action concertée au niveau européen pour faire face à ce type de problématique. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais c'est pas la faute de l'Europe. Ce sont les États, ce sont nos gouvernements respectifs qui n'ont pas voulu lâcher ce type de politique.
Chloé Morin, la peur, dit à l'instant Stéphane Vernet, puis cet impossible dialogue entre les États membres, les États-nations et la structure européenne, vous validez ce regard, cette analyse ?
Oui, c'est vrai que d'une certaine manière, l'histoire est venue... du point de vue de l'opinion publique depuis 2015, donner raison à l'extrême droite sur le constat qu'il y a un sujet avec l'immigration. Et donc, le fait que depuis des années, ils nous disaient que le principal problème était l'immigration et qu'ils étaient les seuls à le dire, et que finalement, on soit confronté à une crise migratoire sans précédent que personne n'avait vu venir et dont personne, pas aucun gouvernement n'a donné l'impression qu'il prenait la mesure et qu'il y avait la coopération nécessaire pour gérer le sujet. Ça a donné à l'extrême droite dans différents pays une sorte de crédit du fait de l'antériorité de leur discours sur ce sujet.
Raphaël Stainville.
Oui, si je peux me permettre, comment ne pas voir et ne pas comprendre la peur de ces peuples quand, ne serait-ce qu'en France, on avait un ancien président et Gaspard était peut-être témoin qui reconnaissait dans un livre de confession qu'il y avait un risque de partition et qu'il y avait un certain nombre de territoires finalement perdus. Et donc, bien évidemment, face à cette peur, c'est pas seulement la crise migratoire, c'est une crise vraiment identitaire qui touche un certain nombre de pays où le modèle culturel perturber, chambouler, challenger par d'autres cultures.
Gaspard Kanzler.
C'est la joie des débats de ne pas être d'accord. Évidemment, moi, je ne considère pas que la question identitaire ou culturelle est la matrice des problèmes des Européens. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je n'aime pas trop non plus l'idée que les Européens, qui sont eux-mêmes des immigrés, pour la plupart d'entre eux, les Français, les premiers, referment la porte derrière eux. Je ne supporte pas l'étranger qui referme la porte derrière lui.
Allez, 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Des images incroyables aujourd'hui, une course-poursuite sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Un individu s'est introduit ce matin avec une voiture volée avant d'être arrêté par la police. Un ouvrier a été légèrement blessé, le trafic interrompu pendant 4 heures. Le conducteur est toujours en garde à vue, un homme fragile psychologiquement selon les enquêteurs. Ce sera donc un homme au perchoir de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand doit succéder à François de Rugy, désigné candidat à La République en Marche. Le parti majoritaire à l'Assemblée. Vous me pardonnerez de ne pas être une dame, a lancé le député du Finistère satisfait. Petite phrase qui suscite de nombreuses critiques et indignations ce soir. Plus de 30 000 déplacés en 10 jours à Idlib, en Syrie, dernier fief rebelle menacé d'un assaut imminent du régime soutenu par la Russie. L'ONU alerte à nouveau, une bataille serait une catastrophe humanitaire, la pire du 21e siècle. Moscou demande une réunion demain à l'ONU. Et puis quand l'amour des livres conduit en prison, un homme de 65 ans a été condamné à 18 mois ferme à Guéret pour avoir tenté de voler 113 livres de la collection illustre La Pléiade, 7000 euros estimés. Il voulait les offrir à sa compagne, professeure de lettres.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez Chloé Morin, je vais vous faire un peu bosser, tiens, pour refermer les informés. Pourquoi le fact-checking, on va traduire tout ça, ne suffira pas à gagner la guerre contre la désinformation. Chloé Morin, c'est le titre de votre étonnante enquête, publiée par, une tribune à partir d'une enquête Ipsos menée sur le domaine étranger, 27 oui, pays sondés 27 pays. Sur, au fond, les fausses infos, les infos intox, les fake news, comme dit Donald Trump. Que dit cette enquête essentiellement?
Oui, c'est vrai. Alors, l'enquête dit beaucoup de choses, mais il y a un élément qui me semble particulièrement intéressant, c'est que dans le débat, on incrimine souvent les médias. On dit que les fake news, c'est la faute des médias.
Bien
et éventuellement
inviter, hein, oui.
Et éventuellement la faute des politiques, et d'une certaine manière, il y a évidemment des responsabilités de ces deux côtés-là. Mais on se demande jamais quelle est la responsabilité du citoyen, du lecteur, de l'auditeur. Et du coup, on a posé une série de questions sur pour mesurer les perceptions que les gens ont par rapport à leur propre capacité à discerner le vrai du faux et à vivre dans leur propre bulle. Et de manière assez nette, ils répondent que les autres vivent dans leur bulle et n'arrivent pas à discerner les fake news des vraies nouvelles, mais qu'eux, ils y arrivent très bien.
Oui.
Et donc, on se dit, il y a peut-être aussi un effort à faire sur nous-mêmes par rapport à ça, qui va bien au-delà de la capacité, parce que les journalistes peuvent faire tous les efforts qu'ils veulent pour corriger, décoder, etc.
Fact-checking, décodage. Oui.
Voilà,
oui. Vous dites que ça marche pas, grosso modo.
Ça n'est pas que ça marche pas, ça n'est pas utile, mais le travail est plus profond que ça. C'est vraiment un sujet de prise de conscience de chacun, des limites de notre propre raisonnement. Mais
nous sommes piégés par le système, c'est ça? C'est quoi? Ça va trop vite aujourd'hui? Chacun dans sa bulle, chacun sur son smartphone.
Il y a des dysfonctionnements qui viennent du système et de la manière dont on s'informe. Mais il y a aussi des choses qui sont profondément ancrées dans la manière dont notre cerveau fonctionne. C'est-à-dire que nous avons des biais cognitifs, des manières de raisonner, de décider qui ne sont pas forcément entièrement conscientes, mais qui expliquent qu'on peut avoir des perceptions très biaisées par rapport à la réalité. Je vous donne juste un exemple de perception biaisée. Par exemple, les Français surestiment de 28 points le pourcentage d'étrangers qu'il y a dans les prisons françaises. Donc, c'est un exemple d'écart de perception qui ne s'explique pas juste avec les médias ou juste par les discours des politiques. C'est aussi parce qu'on a une sensibilité particulière.
C'est un peu déprimant ce que vous nous racontez, c'est sans espoir. Stéphane Vernet, vous écrivez, vous, tous les jours dans Ouest France, vous faites des efforts, tout est vrai dans le journal, c'est ça, dans le journal, grand journal de région.
Mais oui, bien sûr.
Mais c'est un peu inquiétant ce que nous dit Clément.
Non, mais moi, ça m'étonne pas du tout. En fait, ça me rappelle la série X-Files que je regardais quand j'étais petit. Vous vous souvenez, dans le bureau de Mulder, il y avait une affiche au mur et on voyait une soucoupe volante et le slogan qui était inscrit en dessous, c'était « I want to believe ». Je veux y croire. Et notre problème, il est là, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui baignent dans les fake news, qui les reprennent à leur compte. Ils savent très bien que ce sont des fake news, mais ils veulent y croire. Parce que, quelque part, si vous voulez, il y a des gens qui vous affirment que la Terre est plate, ils y croient dur comme fer. Ils sont pas si cons, excusez-moi, d'être un peu trivial et direct, mais ils savent très bien que la Terre est pas plate. Mais quelque part, à un moment, on se demande si cette espèce de volonté d'y croire absolument est pas le seul moyen qu'ils aient à qu'ils estiment avoir pour s'opposer aux élites et pour résister à un système qui les opprimerait. Il y a plein d'exemples qui foisonnent. Moi, j'en ai relevé plusieurs, mais il y en a juste un qui me paraît très rigolo, c'est que il y a un chercheur américain qui a fait une étude très rapide après la cérémonie d'investiture de Trump aux États-Unis. Il est allé voir des gens chez eux en leur montrant deux photos, une photo qui représentait la cérémonie d'investiture de Trump et une autre, c'était celle d'Obama. Et en disant sur quelle photo il y a le plus de monde. Et donc les partisans de Trump, un pourcentage non négligeable que j'ai oublié, disaient « Ah bah c'est celle-là ».
Et après, il leur disait, ah ouais, mais non, mais ça, c'est la photo d'investiture de Barack Obama. Trump, c'est l'autre. Et donc, il disait, ah oui, mais je me suis trompé. En fait, c'est sur l'autre photo qu'il y a le plus de monde.
Gaspard Ganzer, c'est intéressant. Gaspard Ganzer, il y a des fausses infos qui circulent notamment sur vous, sur des envies politiques ou autres.
Mais il faut jamais croire les journalistes. On en parle dans un autre cas.
Les fake news, c'est assez, même question, c'est assez finalement désespérant. On a beau dire, redire, on a beau double fact-checker les choses, ça ne rentre pas. Il reste très peu de temps.
Je vais faire celui qui considère que rien ne change, mais aujourd'hui on parle de fake news, hier on parlait de rumeurs, encore hier on parlait de complot. Il y a un très bon bouquin, ça fera un conseil de lecture, qui s'appelle « Mythes et mythologies politiques » de Raoul Girardet, dans lequel il explique que le mythe du complot est fondateur de notre démocratie et que parfois c'est une sorte de catharsis pour les citoyens qui peuvent se dire, bon voilà, ça, ils trouvent une explication de cette manière-là. Alors après, le rôle des politiques, c'est d'expliquer les choses pour montrer qu'il existe une vérité au-delà du complotisme.
Raphaël Steinville, je vous réinvite pour que vous ayez plus de la parole. Pas de fake news à la une
Pas de fake news, mais moi je pense que ce qui explique notamment le succès aujourd'hui des fake news, c'est qu'il y a par ailleurs une sorte de sentiment de propagande d'État, d'homogamie des journalistes et des politiques qui fait que les gens vont la une. C'est Éric Zemmour sur son interview, une grande interview.
Allez, à lire dans Valeurs Actuelles et la une de Ouest-France avec vous, Stéphane Gardet.
Demain, Ouest-France accompagne ses lecteurs dans le Space, j'ai bien dit le Space, oui, qui est le grand salon de l'agriculture, le deuxième salon de l'élevage en France et qui a lieu à Rennes.
Merci à tous les deux, merci Gaspard Ganzer, merci Chloé Morin. Je rends l'antenne, à demain soir pour une prochaine édition des Informés de France Info.